qui n'a pas un collègue, un patron, un membre de sa famille qui est un peu comme un ogre ou une sorcière et qui est difficile. Les contes nous rappellent plusieurs vérités tout à fait surprenantes. Que celui qui triomphe, c'est jamais celui qui se présente comme le plus fort. Pour triompher, il ne faut pas être sûr de soi et être le plus fort, mais il faut accepter sa propre vulnérabilité et apprendre à poser des questions.
Il était une fois une autrice qui en avait assez de lire des histoires de princesses candides, de marâtres agressives, de jeunes filles fragiles et sans défense, de vieilles peaux cruelles. Alors que les princes, eux, étaient forts, les papas protecteurs, les jeunes garçons courageux et les vieillards bienveillants et sages. Alors l'autrice, excédée, a soufflé sur l'épaisse couche de poussière de ce grimoire allemand du 19e siècle qui s'est transformé en petit livre de poche. Violaine Schwartz, bonjour et bravo pour ce tour de magie.
Bonjour.
Est-ce que vous vous souvenez du premier conte qu'on vous a lu enfant ?
Non, peut-être La Belle au bois dormant.
La Belle au bois dormant, ouais. En lecture ou en...
En lecture, oui. Enfin, j'avais un livre chez ma grand-mère, oui.
C'est par un conte inventé par vos soins que s'ouvre ce livre. Un conte où une jeune fille est en quelque sorte investie d'une mission de féminiser les histoires, de ne pas les laisser finir tragiquement, ne pas laisser les personnages féminins finir tragiquement, de changer en quelque sorte leur destin. Qui ont été ces figures féminines qui ont chuchoté à vos oreilles, Violaine Schwartz ?
En fait, c'est vrai que le livre commence par un texte que j'ai écrit sous forme de conte qui s'appelle « Elle était une fois », où je parle et des partis pris que j'ai choisi de prendre pour cette traduction, et de comment j'ai découvert les contes de Grimm, et de mon enfance en Alsace, et de mon rapport à l'allemand. Et voilà, et c'est vrai que, comme vous le disiez, à force de... Parce que traduire un texte, ça prend quand même un certain temps, donc j'ai passé un an et demi, deux ans en compagnie des contes de Grimm. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'en ai eu un peu assez de l'image des femmes dans cette littérature, comme vous le disiez, qui sont soit victimes, soit méchantes, soit mortes, soit vieilles, soit quoi, soit marâtres.
Qui n'ont pas des rôles très enviables.
Non. Il n'y a pas trop de solutions. Il n'y a rien d'autre, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis permis d'inverser les genres. Voilà. Mais après, je n'ai rien rajouté, je n'ai rien coupé. C'est vraiment une traduction à partir de l'allemand, mais c'est vrai que j'ai mis il pour elle, ou parâtre pour marâtre.
Exactement, ça veut dire que plutôt de faire une réécriture moderne, on pourrait peut-être s'attendre à ça quand on voit ce livre, c'est-à-dire de transformer les carrosses en Ferrari et les robes de princesse en smoking de businesswoman. Vous n'avez pas du tout transformé les histoires, enfin si, elles sont transformées de fait parce que vous transformez la langue, mais uniquement la langue.
Oui, voilà.
Donc, il, elle devient il.
Voilà.
Il devient elle.
Voilà. Marâtre devient parâtre. Après, dans chaque conte, c'est pas systématique. J'essaye de réfléchir où ça pourrait être le plus pertinent, où ça pourrait ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà. Dans mon livre, j'en ai traduit 21. Il y a des contes connus, comme par exemple, justement, La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon Rouge, et d'autres. Très peu connu, parce qu'en fait, les Grimm ont quand même écrit, je crois qu'il y a plus de 250 contes. Il y a des contes très longs, des contes très courts. Et voilà. Et dans chaque conte, j'ai changé un genre, mais quelquefois, c'est énorme. Enfin, je veux dire, par exemple, notamment dans Le Petit Chaperon Rouge, là, j'ai tout changé, ça m'amusait. Et puis, tout le monde connaît ce conte et je trouve ça amusant que le loup devienne une louve, que le petit chaperon devient un petit garçon, le grand-père, la grand-mère devient grand-père. Enfin, j'ai tout changé.
Ce conte, il s'appelle Petit Béret Rouge.
Voilà, il s'appelle Petit Béret Rouge. Oui, j'ai transformé le chaperon en béret. Mais dans d'autres, dans les contes pas connus, en fait, on voit pas la différence. différence. Et c'est vrai que la narration est tellement forte, en fait, dans ces contes, que j'en ai fait des lectures en public. Et en fait, quand les gens ne connaissent pas le conte, là, ça marche pareil, parce que de toute façon, c'est un conte de Grimm. Voilà.
Ce mot marâtre que vous avez utilisé, d'ailleurs, moi, je me souviens personnellement, quand je l'ai appris, j'étais en CE2. Il me semble, et la maîtresse avait dit, ça je m'en rappelle très très bien, c'est le seul mot dans la langue française, bon, elle a peut-être exagéré en disant que c'était le seul, mais qui n'a pas de traduction masculine. Une marâtre, c'est une belle-mère méchante, et ça n'existe pas, il n'y a pas de beau-père, enfin il peut y avoir des beaux-pères méchants, mais il n'y a pas de mot pour dire ça. Elle avait tort.
Ben, parâtre, je crois que ça existe. Il y en a beaucoup à notre époque, en fait, des parâtres et des marâtres.
On s'en rend compte maintenant, oui. Et ça paraît évident. Alors, pour qu'on se rende compte de la façon dont vous avez métamorphosé cette langue, Violaine Schwartz, on va en écouter tout de suite un extrait.
Barbe bleue. Dans une forêt, vivait un homme qui avait 3 filles et un fils qui était très beau. Un jour, un carrosse d'or s'arrête tranquillement devant chez lui. Il est tiré par 6 chevaux et escorté d'une foule de serviteurs. Un roi en sort et dit à l'homme « Je souhaite prendre votre fils pour époux ». L'homme se réjouit d'une telle opportunité pour son fils et dit aussitôt « Oui ». Il n'y a d'ailleurs rien à redire à ce prétendant, sauf qu'il a une barbe complètement bleue, qui fait un peu bizarre à première vue. Le jeune garçon, lui aussi, commence par avoir peur à l'idée de l'épouser, mais face à l'insistance de son père, il finit par accepter. Pourtant, comme il est encore très angoissé, il va trouver ses 3 sœurs, il les prend à part et leur dit « Mes chères sœurs, si jamais vous m'entendez crier, où que vous soyez, laissez tout en plan et courez à mon secours. » Les sœurs promettent de le faire et puis elles l'embrassent. « Adieu, petit frère. Dès qu'on entend ta voix, on saute sur nos chevaux et on arrive. » Sur ce, il rejoint Barbe Bleue dans son carrosse et s'en va avec lui. Quand il arrive au château, tout est magnifique. Et le moindre de ses souhaits, maintenant qu'il est roi, est immédiatement exaucé. Et il aurait pu être très heureux si seulement il avait réussi à s'habituer à la barbe bleue du roi. Mais il est toujours vert de peur dès qu'il la voit.
Sous la plume de Violaine Schwartz, la jeune fille qu'épouse Barbe Bleue dans le conte des frères Grimm est donc devenue un jeune garçon. Et la suite correspond évidemment à l'inversion des genres que vous faites. Ce sont des dizaines de cadavres d'anciens amants qui sont découverts par le nouveau partenaire, plutôt que des dizaines de jeunes vierges baignant dans leur sang. Et ce sont les sœurs du jeune homme qui viennent le sauver. La seule personne qui n'a pas changé de genre, c'est Barbe Bleue lui-même. Pourquoi ?
Oui, alors c'est vrai que j'ai pas mal hésité. En fait, c'est vrai que j'aurais pu faire Chignon Bleu ou je sais pas quoi, Lèvres Bleues, mais transformer ce monstre en une monstresse, une ogresse. Mais finalement, j'ai décidé de garder un homme parce que je pense que cette histoire, qui est donc un conte de Perrault, était sans doute inspirée par l'histoire de Gilles de Rais, qui était un baron, qui était un pédocriminel épouvantable et qui a assassiné, je crois, plus de 140 jeunes hommes. Et peut-être qu'on a transformé cette histoire en jeune fille pour... Je ne sais pas. En tout cas, en gardant ça, je me rapproche finalement de l'histoire originelle. Après, ce qui m'amuse aussi, c'est d'imaginer, parce qu'en fait, dans le conte Barbe Bleue, les frères qui vont sauver la jeune fille sont en train de boire du vin nouveau dans la forêt et puis galopent sur leurs chevaux plus vite que le vent. Et moi, je trouve ça assez réjouissant d'imaginer des jeunes filles en train de boire du vin nouveau dans la forêt et qui galopent et qui sont très fortes et qui défoncent la porte du château et qui embrochent Barbe Bleue, ça m'amuse.
Vous donnez le droit à vos personnages féminins, enfin aux personnages féminins ici, d'endosser des rôles de combattantes, des rôles de protection, des rôles chevaleresques et puis aussi de filles qui se détendent et puis qui descendent une bouteille de vin, voilà. Est-ce que ce type de personnage, des femmes qui ont ont des rôles atypiques. Est-ce que des bonnes surprises, entre guillemets, vous avez pu en lire dans les différentes traductions ?
Dans les différentes traductions ?
Des contes.
Non, parce que les contes, en général, gardent le genre original. Par contre, c'est vrai qu'il y a des contes de Grimm. Il y en a notamment un qui est assez étonnant, où là, je n'ai pas changé grand-chose. C'est les 12 frères que j'ai traduit. Et il est étrange, ce conte, parce que c'est donc... comment ça se passe ? C'est un homme et une femme qui ont 12 garçons. La femme est enceinte et le père dit à sa femme enceinte, il dit « Si le 13e enfant que tu vas mettre au monde est une fille, on tuera tous les garçons pour qu'elle soit l'unique héritière du royaume. » C'est incroyable. Et donc, en effet, c'est une fille. Donc, les enfants, la mère dit à son plus jeune fils cette histoire et du coup, les garçons vont se cacher dans la forêt, ils disparaissent, donc ils ne sont pas tués par le père. Et puis la jeune fille devient grandie, et une fois qu'elle a 12 ans, elle trouve des toutes petites chemises, et elle dit « Mais à qui sont ces chemises ?» Et la mère lui avoue la vérité, qu'elle a 12 frères qui se sont échappés pour ne pas être tués, etc. Et cette jeune fille part toute seule dans la vaste forêt profonde à la recherche de ses frères, et elle les trouve. Et ça, c'est étrange comme conte, par exemple. De vouloir tuer tous les garçons au profit d'une fille. C'est comme ça dans le conte. Mais la plupart du temps, c'est quand même...
Très stéréotypé.
C'est quand même, en effet, des femmes passives qui subissent ou qui sont très méchantes. Des marâtres, sorcières, voilà.
Et là, en l'occurrence, puisque vous n'avez pas changé le genre de Barbe Bleue, ça en fait un personnage homosexuel. Est-ce qu'il y en a d'autres dans les contes de Grimm où c'est le premier personnage...
En vrai, vous voulez dire
dans
vrais
les contes
de Grimm
ou dans les autres que vous avez pu lire
Non, je ne crois pas. Enfin, non. Mais c'est pas dit, peut-être entre les lignes, mais non. Ouais. Mais après, c'est vrai que les frères Grimm aussi, ils ont travaillé toute leur vie sur ces contes. C'est-à-dire qu'il y a 7 versions différentes des contes. Ils ont travaillé tout. Il y a eu 7 versions, ils ont travaillé toute leur vie, un peu en suivant l'évolution des mentalités de l'époque.
Reste des mentalités du 19e.
Oui, ça reste des mentalités du 19e. Et par exemple, ce qui est intéressant, on parlait de marâtre tout à l'heure, c'est qu'il y a des contes où, en fait, les marâtres sont apparus au fil des versions différentes. Au début, c'était des mères. Et en fait, comme au cours du 19e siècle, s'est forgée l'image de la mère idéale, de l'instinct maternel, etc., en fait, ces mauvaises mères ont été transformées en marâtres, qui sont des anti-mères. Donc, du coup, ils ont fait mourir les mères en couche. Et puis, c'est une affreuse femme qui est l'antithèse d'une mère. Mais ce qui est drôle, c'est que, par exemple, dans Hansel et Gretel, au début, c'était une mère, puis c'est devenu une marâtre pour protéger ça. Mais il y a des traces. C'est-à-dire que dans Hansel et Gretel, à un moment, c'est la mère et trois phrases après, c'est la marâtre. Donc, ça, c'est comme s'il y avait des vieilles traces de ces versions. Et donc, je me disais, si les Grimm étaient encore vivants à notre époque, peut-être qu'ils auraient aussi imaginé des princesses très courageuses et des garçons qui ont le droit de pleurer. Parce que aussi, c'est dur pour les garçons aussi. Dans les contes de Grimm, ils sont tout le temps obligés d'être vaillants. Ils ne peuvent pas se laisser aller à leurs émotions. Et donc, à notre époque, où quand même le genre est très, très, très questionné par les jeunes, je pense que peut-être ils auraient suivi. Ils auraient fait ça aussi.
On va reparler, si vous le voulez bien, justement, de ces personnages mythiques et de ce qu'ils symbolisent aujourd'hui, ou ce qu'ils auraient pu symboliser aujourd'hui, ce qu'ils auraient pu être aujourd'hui. Mais avant, on écoute Plongereuse, vous noterez le clin d'œil à l'écriture inclusive, de Flavien Berger.
Fermé, tout mon être. croise les yeux d'un poisson géant. Ma plongeuse.
Flavien Berger sur RFI, Flavien Berger qui sera en concert à Paris la semaine prochaine à La Cigale. Et nous retrouvons de vive voix Violaine Schwartz, comédienne, écrivaine et ici en l'occurrence traductrice des contes des frères Grimm. Violaine Schwartz, c'est justement sur une terre de contes que vous avez grandi. La région française qui marque la limite avec l'Allemagne en Alsace donc. À l'Est, région qui, il était une fois, ou il était deux fois plutôt, peut-être même plus, j'ai pas révisé mes cours d'histoire, appartenait à l'Allemagne, justement, pays des frères Grimm. Est-ce que vous avez senti un lien particulier entre ce texte, enfin le dernier que vous avez pu lire, la dernière édition du texte des frères Grimm, et vous, par rapport à cet espace dans lequel vous avez grandi ?
Oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que les forêts profondes des frères Grimm, je les connais. Je connais la forêt noire, j'ai fait X balades, les Vosges, la noirceur de ces forêts très profondes, très... Voilà. Oui, il se trouve que je rentre d'Alsace. J'ai encore de la famille là-bas. J'ai même mangé de la choucroute hier soir. Je suis tout à fait alsacienne.
Et non, donc, vous parlez donc l'allemand, mais surtout pas l'alsacien, aurait dit l'adolescente que vous étiez. L'alsacien, c'est pour les ploucs, les bouseux de la campagne. Ce sont vos mots, pas les miens. Et aujourd'hui, vous le regrettez.
Oui, ben ça, c'est... je raconte ça parce qu'en effet, ma grand-mère, elle est née en 99, donc à ce moment-là, l'Alsace était allemande. Et ma grand-mère parlait l'alsacien, elle parlait le français avec un accent alsacien. Et quand moi j'étais à l'école à Strasbourg, j'ai grandi à Strasbourg, oui, on se moquait un peu des gens qui avaient l'accent.
Ça ressemble à quoi l'alsacien ?
Hop là, hein, c'est comme ça qu'on parle. Là, je fais peut-être un peu trop, mais bon, voilà. Et donc, c'était un peu cruel, mais comme les enfants peuvent l'être dans les cours de récré. Et il se trouve aussi que ben, les gens qui avaient l'accent alsacien, peut-être ils étaient dans des villages où ils étaient un peu... Voilà. Bon, je trouve ça maintenant, rétrospectivement, je trouve ça complètement stupide. Mais voilà, en tout cas, je ne voulais pas apprendre l'alsacien. C'était pas... Voilà.
Mais il y a des mots quand même qui vous ont marqué dans la bouche de votre grand-mère.
Bah oui, oui. Non, mais je connais quand même. Je comprends un peu l'alsacien parce que c'est proche de l'allemand. Mais oui, oui. Et ma grand-mère, elle me donnait des diminutifs alsaciens. Mikkele, qui veut dire petite souris. Schätzele, petit trésor. Elle m'appelait comme ça. Et moi, j'ai appris l'allemand, bon, comme beaucoup de gens à Strasbourg, en sixième. Après, j'en ai fait. J'ai beaucoup aimé l'allemand. J'ai aussi fait une. Il se trouve que j'ai fait une traduction, il y a peut-être 20 ans, j'ai traduit avec un... Alors, j'étais avec un traducteur dont c'était le métier, François Rey. J'ai traduit une pièce de Brecht qui a été montée ensuite et dans laquelle j'ai joué, le cercle de Craig Caucasien. Mais après, je pensais, ça m'a plu cet exercice de traduction. Mais la vie, finalement, a fait que je n'y suis pas retournée jusqu'à ces contes de Grimm que j'ai 20 ans après.
Et vous en donnez d'ailleurs du fil à retordre, puisque vous racontez que votre cerveau a dû tricoter des traductions proches et en même temps évocatrices d'un conte qui s'appelle en allemand, alors excusez-moi, je ne le parle pas, Dornröschen.
Dornröschen, oui. Oui, mais ça, c'est, par exemple, c'est intéressant parce que Dornröschen, c'est un conte qui est l'histoire de la Belle au bois dormant, sauf que donc qui vient de Perrault, ou je ne sais pas si ça vient de Perrault ou de gens qui connaissaient Perrault et qui ont raconté ça aux frères Grimm. Je ne sais pas s'ils avaient, sans doute, ils avaient lu les contes de Perrault. Mais eux, ils ont renommé cette princesse, ils l'ont renommée Dornröschen, ce qui ne veut pas du tout dire la Belle au bois dormant, ça veut dire petite rose d'épine en fait. Dorn, c'est épine et Röschen, petite rose. Donc très souvent dans les contes de Grimm actuels, dans les traductions pour enfants, il n'y a pas marqué petite rose d'épine, il y a marqué Belle au bois dormant. Mais en fait, ça ne veut pas dire ça, ils l'ont renommée quoi. Et c'est vrai que ce qui est rigolo, c'est que quand... alors, il y a des traductions plus savantes, où il y a une magnifique traduction qui est publiée chez José Corti, où il y a l'intégrale des contes de Grimm avec toutes sortes de notes en bas de page, où là, c'est traduit « petite rose d'épine » ou « rose d'épine » peut-être. Mais la plupart du temps, c'est traduit « la belle au bas dormant ». Et moi, quand j'ai traduit ce conte, où en effet... c'est là où j'ai eu l'idée en fait de changer de genre pour la première fois, parce que je m'arrachais un peu la tête pour dire oui mais petite rose d'épine, mais je suis pas complètement convaincue, mais belle au bois dormant c'est pas juste, enfin bon bref. Et au bout d'un moment je me suis dit, et si j'en faisais un petit garçon, et du coup petit églantier, ce qui correspond assez parce que églantine ils ont des épines, et enfin bon bref.
Est-ce qu'on sait pas forcément quand on connaît pas la non une églantine,
ouais. Mais c'est pas
ça
mal
pique.
En fait oui ça pique, donc petit églantier c'est devenu petit églantier. Et après j'avais juste un conte où j'avais, et c'était rigolo en fait, ce petit garçon qui se pique, et puis c'est de nouveau une princesse qui vient lui faire le baiser qui réveille, ça me plaisait bien. Et ensuite, je me suis dit, ben tiens, je vais continuer à faire ce changement dans d'autres contes.
Violaine Schwartz, restez avec nous. Comme chaque semaine dans De Vive Voix, on se penche sur une expression de la langue française, c'est la puce à l'oreille avec Lucie Bouteloup.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Amélie.
Alors vous ne sortez pas d'un conte, mais comme certains de ces personnages, pour vous Lucie, les temps sont durs.
Oui, je peux rien vous cacher. Les temps sont durs, mais rassurez-vous, je ne suis pas encore obligée de danser devant le buffet. Oui, vous m'avez bien entendu. Danser devant le buffet. Alors, cette expression vous dit peut-être rien, Amélie, mais aujourd'hui, avec le linguiste Daniel Lacotte, on a décidé de la remettre au goût du jour. Dans quelques instants, donc, les explications, mais avant, comme d'habitude, les explications des enfants.
Danser devant le buffet, pour moi, ça veut dire être fier de soi. Vu que le buffet, ça, c'est un moment un peu festif et tout ça, et bah ça représente un peu la gloire et tout ça, et bah à mon avis, ça vient de là.
Bah le buffet, c'est ce qui permet de nourrir, c'est un repas festif, qui est grand, qui est riche aussi. Du coup, quand tu danses devant, c'est un peu que tu remercies la nourriture.
Bah par exemple, au Moyen-Âge, il y avait des buffets pour le roi, tout ça. Et du coup, bah, quand on dansait devant, ça veut dire qu'on était content.
Bah, danser devant le buffet, pour moi, ça veut dire être très content quand il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'un buffet, il y a beaucoup de nourriture. Et donc souvent, bah, les gens, ils aiment bien les buffets. Donc danser devant un buffet, c'est parce que t'es content qu'il y ait le buffet. Du coup, c'est être enthousiaste.
Bonjour Daniel Lacotte.
Bonjour Lucie.
Alors, peut-être qu'il faut préciser pour comprendre cette expression, danser devant le buffet, de quel buffet il s'agit ?
C'est le buffet qu'on a dans nos salons ou dans nos cuisines.
Donc c'est le meuble, ça n'a rien à voir avec ce repas, ce buffet auquel les enfants font allusion. Hein.
Ah non, bien sûr.
Il y a eu un petit malentendu sur cette expression. Ils ne connaissent pas donc cette expression qui n'est plus très utilisée, il faut bien le dire.
Pas trop, non. Il y a quelques hommes politiques qui l'ont utilisé ces derniers temps à propos de... Tout ce qui se passe.
Qu'est-ce que ça veut dire, danser devant
Alors,
le buffet ?
Danser devant le buffet, ça veut dire ne pas avoir assez à manger. Donc, comme on n'a pas assez à manger, on danse devant le buffet pour essayer d'avoir à manger. En fait, c'est ça, fondamentalement, ce que ça peut vouloir dire.
Ça veut dire qu'on est fauché, quand même, qu'on manque de moyens financiers.
Bah bien sûr, ça veut dire qu'on est fauché. Il y a une autre expression, c'est manger des briques à la sauce caillou.
Ouais. Alors ça, ne c'est... rien avoir à se mettre sous la dent,
voilà.
En fait.
Sauf des briques et de la sauce caillou. Enfin, elle est très très belle, cette expression. Et danser devant le buffet, ça veut dire que le buffet, potentiellement, est empli de victuailles, mais on n'y a pas accès.
Parce Donc qu'on a... on trompe sa faim en dansant devant ce buffet.
Oui, ou on imagine qu'en dansant devant le buffet, on fait une danse du ventre pour que les portes s'ouvrent, potentiellement, ou qu'elles puissent éventuellement s'ouvrir.
Elle date de quand, cette expression ?
Oh, 18, à peu près.
Ce qui est intéressant, Daniel, c'est que vous notez dans votre ouvrage que le mot « buffet » aurait le même radical que le verbe « bouffer ». Bouffer qui veut dire manger.
Bouffer qui veut dire manger, mais pas seulement aussi. Hein. Quand on parle d'une robe bouffante, hein, c'est visuel.
Donc c'est gonflé.
C'est gonflé.
Donc il y a l'idée d'abondance.
Il y a l'idée d'abondance dans bouffer, oui, absolument.
Donc il y a l'abondance, et puis il y a aussi peut-être une autre théorie qui viendrait d'un verbe qui serait fringaler.
Fringaler, oui. Bah, fringaler qui veut dire bah, avoir la fringale, quoi, en gros. Hein. C'est-à-dire avoir très 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 envie de manger. Tout ça est lié, si vous voulez, hein, la fringale, le bouffet, le buffet.
Et puis, il y a certains linguistes qui avancent le fait que ce verbe fringaler, au XVIe siècle, voulait dire danser.
Oui, mais tout ça est lié, Lucie. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on danse parce qu'on a envie de danser, mais parce qu'on a faim. On peut aussi dire, certains de mes confrères l'ont dit, donc fringaler parce qu'on dansait. Alors là, c'est le vagabondage. On dansait devant les aristos, devant des riches, etc. Ils vous donnaient 3 francs 6 sous pour manger. Donc c'est ça le truc. Le lien, il est là.
Alors on danse devant le buffet quand les Néerlandais mordent un bout de bois. Les Roumains, eux, de leur côté, restent les dents aux étoiles ou se collent le ventre au dos. Quand ça, les Allemands...
Faut le faire, hein. faut être souple, hein.
Quand les Allemands poussent la vapeur du chou. Merci Daniel Lacotte pour votre éclairage. Vous ne resterez pas les dents face aux étoiles grâce à la parution de votre dernier ouvrage aux éditions du Larousse. Un ouvrage qui s'intitule « Au bonheur des mots les plus truculents de la langue française ». À bientôt Daniel.
Merci, à bientôt.
La puce à l'oreille de Lucie Bouteloup. Violaine Schwartz, est-ce que vous connaissiez cette expression « danser devant le buffet » ?
Ben non, je dois dire que non, ça m'est pas revenu quand vous l'avez dit, non, le sens.
Et sa version allemande, alors, pousser la vapeur du chou. Alors j'ai regardé sur, la traduction, le traducteur de Google, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais ça donne Kohldampf schieben.
Ok, non, je connais pas non plus.
Non, pas du tout. Non. Un grand mystère. Est-ce qu'il y a des expressions dans le texte des Contes de Grimm qui vous ont marqué ? Que vous ne connaissiez pas, des tournures de phrases surprenantes.
Oui, là, comme ça ne me reviendrait pas. Mais oui, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas et j'ai passé mon temps dans les dictionnaires. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a aussi beaucoup d'expressions du parler. Oui, c'est une langue assez orale, en fait. Oui, il y a des choses.
C'est vrai que ça se lit comme ça se parle.
Bon, après, c'est vrai aussi que moi, je suis comédienne et j'ai fait ça pour la scène, enfin, pour être dit, j'ai vraiment essayé. Et je pense que c'est comme ça, les contes, la langue d'origine. Et que quelquefois, c'est pas forcément traduit comme ça. C'est assez répétitif. C'est une langue un peu minimaliste, avec musicale, avec vraiment les mêmes mots qui reviennent en boucle. Et moi, j'ai essayé de garder ça. Je trouve ça... Voilà. Mais...
C'est très réussi en tout cas. Merci beaucoup Violaine Schwartz. Les contes de Jacob et Wilhelm Grimm, un genre de traduction de Violaine Schwartz, c'est à retrouver aux éditions POL. Et demain, on part au théâtre avec notre invitée Jennifer Lesage-David. N'hésitez pas à réécouter cette émission en podcast sur l'application Pure Radio ou sur RFI.fr. À demain, même heure.